Amis auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau Libre Journal. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, émission de rentrée, et la rentrée est propice aux réflexions d'envergure, et c'est pourquoi je vous propose, chers auditeurs, d'essayer de mieux comprendre les soubresauts de ce monde, l'actualité que nous vivons aujourd'hui, qui nous touche tous par, évidemment, l'instantanéité de l'information. Et je vous propose que nous analysions cette situation internationale grâce aux lumières d'un spécialiste justement des relations internationales et de la gestion des crises. Xavier Guillou, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro. Vous êtes un spécialiste des missions, à la fois pour le compte d'État ou de grandes entreprises. Vous avez exercé de hautes responsabilités tant dans le secteur public que privé. Vous avez également des responsabilités dans la formation, que ce soit dans des grandes écoles, des universités ou bien des organisations professionnelles et patronales. Vous êtes une référence nationale et internationale en ce qui concerne la maîtrise des risques et le pilotage des crises dites hors cadre. Alors pour nos auditeurs, hors cadre, ça signifie très grave.
Oui, enfin, ça signifie exceptionnel. Enfin, c'est des crises comme Fukushima ou comme Katrina, ou voire si on avait des grandes crises cybernétiques avec des cyberattaques sur nos systèmes d'information, voire les grandes pandémies. Enfin, c'est ça qu'on appelle les crises hors cadre aujourd'hui, c'est-à-dire celles qui ne sont pas gérables avec les processus ou les méthodes qui nous permettent de pouvoir faire face à toute situation dans l'état actuel des choses.
Et qui chamboule complètement notre vision des choses et puis aussi la façon dont il faut réagir, puisqu'il n'y a rien dans le manuel, on pourrait dire.
Non, on est face à des pages blanches. Hein. On est face à des pages blanches et là, il faut inventer à très grande vitesse à la fois des postures et des résolutions de ces crises-là.
Alors, je vous remercie évidemment de faire partager vos analyses, vos réflexions, votre expérience avec nos auditeurs. L'actualité internationale est toujours particulièrement riche, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a des sujets plus brûlants que d'autres. Et pour nos auditeurs se rappellent peut-être que vous nous aviez fait le plaisir de faire ce même panorama il y a maintenant plus de 2 ans, donc en 2012. Et il m'a semblé intéressant peut-être de reprendre les thèmes que nous avions abordés à l'époque et de voir ce qui est toujours d'actualité, ce qui a changé, et puis finalement de confronter le passé au présent. Alors, un des sujets que nous avions abordé il y a maintenant plus de 2 ans, eh bien, c'est un éventuel conflit entre Israël et l'Iran.
Oui.
Et force est de constater qu'aujourd'hui, en tout cas dans les grands médias, ce n'est plus le thème d'actualité.
Oui, entre les deux, c'est glissé l'État islamique en Irak et au Levant, le IL. Copieusement maintenant baptisé Daesh par nos autorités, ce qui est
plus exotique.
Non, ça évite de dire que c'est un État et ça évite de dire qu'il est islamique. Voilà. Alors que c'est la traduction littérale en arabe. Enfin, bref, entre les deux, nous avons maintenant cet enkystement qui s'est installé sur toute la zone de la Mésopotamie et qui grosso modo, il est en train de s'étaler sur l'ensemble de la zone Tigre-Euphrate et qui donc crée une espèce de no man's land, une zone grise entre en effet Israël et l'Iran. Sur le fond, cette affaire fait ressortir le vieux conflit entre sunnites et chiites, mais n'occulte pas la grande question qui se pose depuis maintenant 3-4 ans, qui est le retour de l'Iran comme puissance centrale sur l'ensemble de ce Proche et Moyen-Orient, et puis la redéfinition de toutes les postures sécuritaires d'Israël sur son territoire et par rapport à son devenir. On le voit bien au travers de tous les événements. Les événements que nous avons eus, par exemple, cet été avec l'affaire de Gaza, où les Israéliens se sont retrouvés confrontés d'une part avec des réseaux proches de l'Iran, enfin proches du Hezbollah, comme on trouve notamment sur la frontière nord d'Israël et sur le sud Liban et autres. Et puis de nouveaux réseaux qui sont des réseaux mutants venant non plus du Hamas classique, mais des réseaux Al-Qaïda et maintenant de l'EIL à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc on est dans une situation qui a évolué, alors ça surprend peut-être un petit peu les auditeurs, mais qui a évolué normalement, puisque en fait tout ça était un peu dans les tuyaux il y a 2-3 ans. Ce sont, je dirais, des confrontations à l'intérieur des réseaux Al-Qaïda ou des réseaux djihadistes qui ne sont que la traduction d'un certain nombre de confrontations entre Saoudiens et Qataris sur l'ensemble de cette zone du Moyen-Orient pour prendre un peu le contrôle de tous les grands tracés des gazoducs qui vont sur le nœud eurasien aujourd'hui. Et de cette confrontation est né, je dirais, ce pot de puce qui vient de s'installer sur cette zone de l'Irak et de la Syrie et qui nous crée une zone grise supplémentaire au niveau d'affrontement sous-jacent qu'on connaît.
Mais alors,
l'affaire iranienne et l'affaire israélienne sont les vraies questions sur le fond, hein, n'ont pas changé.
Oui, elles n'ont pas changé.
Non, le retour de l'Iran comme acteur majeur des rapports de force sur le Proche et Moyen-Orient, c'est la question fondamentale qui se pose aujourd'hui. Hein.
Et qui est sans doute assez légitime. L'Iran est un grand peuple, une grande nation. Et est-ce que les Israéliens ne peuvent pas trouver un terrain d'entente avec...
Ils n'ont jamais cessé de discuter avec les Iraniens. Jamais cessé de discuter. Moi, je l'ai vu lors des différentes guerres au Liban, etc. Ils ont toujours eu des ponts avec les Iraniens, comme des ponts avec les Syriens. Ils ont toujours eu des ponts avec tout le monde. Après, il y a la réelle politique et puis il y a la gestion, l'instrumentalisation des rapports de force sur le terrain. On ne peut pas sous-estimer les Israéliens en la matière, ni les Iraniens.
Voilà. D'accord.
Faut quand même voir que les Iraniens, après le passage des Américains en Irak, c'est quand même l'Iran qui, par un certain nombre de dispositifs qui fonctionnent sous pavillon, c'est l'Iran quand même qui préside aux destinées de l'Irak. Hein. Ce ne sont plus les sunnites issus du clan de Saddam Hussein, du reste. Si on a une situation aussi aiguë aujourd'hui sur cette zone-là, c'est en grande partie le fait d'un mauvais traitement des Américains de la question sunnite. Mais à Bagdad, ce sont des chiites qui dirigent et qui ont mis à mal à la fois les Kurdes et les sunnites. Donc l'Iran est quand même extrêmement présente sur la zone. Elle est plus que présente en Irak, elle est plus que présente à Bahreïn, et où... elle challenge tous les réseaux, notamment sunnites ou wahhabites de la région. Enfin, je veux dire. Donc, on a une emprise de la politique iranienne, mais aussi de la démographie chiite aujourd'hui sur l'ensemble de la zone, qui montre que l'Iran est devenu une des puissances incontournables. Mais comme l'est aussi par ailleurs l'Égypte, et on a bien vu le retour avec le général Sisi d'un pouvoir fort, et les frères musulmans ont été éliminés de la place après cette euphorie sur les révoltes, enfin les printemps arabes, et on voit bien aussi que la Turquie est un des pivots de l'ensemble de la zone. Quoi, les trois grandes puissances centrales de l'histoire du Proche et Moyen-Orient aujourd'hui se réinstallent dans leur
lit historique naturel.
Voilà, Israël est né des accords de Balfour. Nous avions une emprise sur la zone qui était liée aux accords Sykes-Picot. C'est tout ça qui aujourd'hui est un peu ébranlé, remis en cause, chahuté par toutes ces mouvements de fond, et il est légitime que Israël se pose la question de savoir, par rapport à ces évolutions de fond, quels peuvent être les scénarios pour son devenir et sa stratégie, notamment sécuritaire.
Mais finalement, Israël peut très bien se retrouver dans une situation de paix avec ses voisins trop grands pour être combattus et trop grands pour combattre Israël également, c'est-à-dire chacun...
Oui, des compromis, des stratégies de compromis sur l'ensemble de la région, mais tout le monde sait très bien faire en Orient. Hein.
Et finalement, la seule question qui se pose pour Israël sérieuse, c'est comment gérer intelligemment la question palestinienne. Et il me souvient une émission faite cette année à ce micro avec des spécialistes de la question israélienne sur la question des services secrets israéliens et qui disait que il y avait une remise en question très forte des anciens du renseignement militaire et des services secrets israéliens pour dire qu'il fallait cesser cette politique d'élimination plus ou moins ciblée et sans discontinuer de, je dirais, l'embryon d'État profond palestinien, même si celui-ci a une posture extrêmement agressive vis-à-vis d'Israël.
Il y a une série qui a été faite sur ce sujet-là, qui s'appelle Green Keepers, où il y a 6 ou 7 anciens patrons du Shin Bet qui ont été interviewés.
Exactement, c'est ce à quoi faisaient référence ces chercheurs en disant que ça c'était un élément fort qui allait sans doute irriguer la réflexion stratégique d'Israël dans sa question de savoir que faire avec les Palestiniens.
Alors, c'est un pays que je connais bien. C'est un pays sur lequel j'éviterai de tomber dans des caricatures parce que la situation est vraiment très complexe. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, la problématique pour Israël, c'est au-delà des compromis qu'il peut passer sur le plan diplomatique via les services secrets, etc., avec l'ensemble des pays de la zone pour survivre, c'est le risque d'importer au sein d'Israël le niveau de chaos et le niveau de barbarie qui est en train de s'installer sur l'ensemble de la zone mésopotamienne, mais qu'on a connu aussi sur l'Afghanistan et qu'on connaît aussi sur la zone sahélienne. Et ce qui, à mon avis, doit préoccuper aujourd'hui les dirigeants israéliens, c'est le niveau de déstabilisation du Fatah, parce que le Fatah n'existe quasiment plus, mais du Hamas, qui aujourd'hui commence à être sérieusement infiltré par ces mouvements extrêmement violents et je dirais quasiment presque suicidaires, enfin, au sens où le suicide est un acte qui relève du martyr.
Oui, le suicide devient une arme.
Oui, c'est une arme. C'est une forme de. C'est plus qu'une arme. Hein, c'est une forme de stratégie qui conduit tout le monde, si vous voulez, à adopter le même type de comportement à la fin, puisque vous rentrez vous-même aussi dans une stratégie sécuritaire qui devient suicidaire. Mmh. Et on le voit bien quand les Israéliens commencent à construire des murs partout, à essayer d'endiguer les phénomènes, alors que ces phénomènes sont en train de se pénétrer à l'intérieur de la société. Les stratégies sont pas évidentes. Maintenant, moi je regarde beaucoup la situation israélienne parce que généralement ils ont à peu près 15 à 20 ans d'avance sur nous. Et quand on regarde ce qui se passe avec
beau terrain d'expérimentation.
Exactement. Et moi je serais beaucoup plus modeste que beaucoup de chroniqueurs sur la situation israélienne qui font beaucoup la morale sur la situation.
Mais que ferions-nous à leur place?
Exactement.
Et comment percevrions-nous?
Exactement.
Avec les deux écueils majeurs qui seraient celui d'une réponse sécuritaire trop importante ou au contraire un irénisme qui n'a pas lieu d'être face à un ennemi objectif.
Exactement, avec un dilemme qui est, est-ce que vous donnez les moyens aux Palestiniens pour créer un État et une économie et vous faites confiance comme on a essayé de faire avec Arafat et avec le Fatah, ou est-ce que au contraire, il n'y a plus rien à faire
et on
éradique et on détruit. Hein. On le voit bien, y compris même dans l'armée israélienne, les récentes divergences et divisions qui ont eu lieu, par exemple, notamment dans la réserve de l'armée israélienne et dans certaines unités extrêmement sophistiquées en termes de renseignement, ont montré que il n'y avait pas unanimité sur
les profondes réflexions.
Hein. Oui, mais en même temps, c'est pas facile parce que à la fois Israël est obligé de garder un niveau de performance et d'efficience sur le plan de la projection pour pouvoir faire face à tout scénario possible et imaginable sur ses frontières, et en même temps, il est obligé de traiter un mal intérieur extrêmement complexe où vous avez tout un tas d'ingrédients religieux, identitaires, culturels, politiques, territoriaux qui s'entrelacent et qui sont extrêmement complexes à gérer. Mais je vous dis, nous, on risque d'avoir la même chose parce que quand vous regardez les mots d'ordre de l'EIL, notamment ce qu'on appelle l'État islamique, la vraie stratégie de l'État islamique, c'est d'importer chez nous.
Oui, c'est les métastases.
Oui, c'est d'importer chez nous c'est non pas d'exporter, mais d'importer. C'est-à-dire qu'on prend des gens de chez nous, on les forme sur le terrain, il y a tout un lavage de cerveau, ils reviennent, et l'objectif est de...
C'est ça l'internationalisation des études.
Oui, non mais je veux dire le grand théoricien de l'EIL qui est un Syrien qui a été du reste formé en France, qui a fait des études d'ingénieur à Nancy, hein, qui s'appelle El Souri, qui a bien calé la doctrine. La doctrine, c'est à la fois on accompagne une stratégie de prise de contrôle territorial et puis l'installation d'un État, hein, donc même plus loin que ça avec l'histoire du califat. Mais l'objectif, c'est de réinjecter une partie des troupes qui sont venues se former dans les pays d'origine pour pouvoir développer le djihad à l'intérieur des pays d'origine. Donc je crois qu'il ne faut pas être naïf là-dessus. Mmh. Nous avons exactement les mêmes préoccupations que les Israéliens ont aujourd'hui à l'intérieur d'Israël avec l'affaire du Hamas.
Oui, mais il s'agit là d'une stratégie qui... Enfin, si j'étais musulman radical, je ne suis pas certain d'adopter cette stratégie. Pourquoi ? Parce que c'est permettre à un État, à un peuple, à une population, à une cité d'être perpétuellement en éveil face à un ennemi qui s'auto-désigne lui-même. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, suite à l'actualité la plus récente, que beaucoup de nos journalistes qui voudraient justement mettre de côté cet ennemi qui s'est auto-désigné pour dire qu'il n'existe pas sont bien ennuyés par les réactions, je dirais, de bon sens du français au bistrot. Oui. Donc je suis assez dubitatif, si vous voulez, sur le fondement de cette stratégie qui consiste à envoyer quelques centaines de loups solitaires dans nos pays qui ne renverseront jamais l'État. Enfin, ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris et qui permette finalement à une communauté nationale, voire même au sein de la communauté nationale, de séparer le bon grain de l'ivraie. Encore une fois, je suis dubitatif sur l'intérêt que cela présente pour les musulmans extrémistes. Je ne vois pas l'intérêt de cette stratégie. Or, ils sont intelligents, donc il y a peut-être quelque chose que nous n'avons pas compris.
Bon, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris, mais je dirais plusieurs choses par rapport à votre commentaire. La première, c'est que nos sociétés ne savent pas construire une démarche sécuritaire sans avoir bien défini une menace et qu'elle soit explicite. Regardez par exemple l'OTAN. Mmh. Pour l'OTAN, ce qui s'est passé avec l'Ukraine était un cadeau inespéré.
Béni, oui.
Inespéré, parce que ça, quasiment, ce qui s'est passé notamment sur la zone du Donbass a permis à M. Amundsen de pouvoir réveiller une stratégie qui était moribonde et qui était balbutiante. Surtout après l'affaire de l'Afghanistan et tous les développements qu'on a connus ces dernières années. Mais c'est pareil pour Israël. Israël a besoin d'avoir un ennemi. S'il n'a pas d'ennemi, il ne peut pas conserver, je dirais, son niveau, je dirais, d'alerte sécuritaire. Et je dirais même que les djihadistes ont besoin, pour prendre le cas des djihadistes, ont besoin de provoquer en permanence, notamment en utilisant les médias et en utilisant ce côté, je dirais presque... Bon, certes barbaresque, mais hollywoodien, parce que quand vous regardez quand même la télévision ou le cinéma, vous regardez quand même le niveau, si vous voulez, d'agression, d'agressivité qui est présenté sur nos écrans. C'est à peu près grosso modo ce qui se passe là, non virtuellement, sur le terrain. Mmh. Mais ils ont besoin, eux aussi, de développer une menace pour pouvoir exister. Alors... il faut bien voir que ces réseaux, enfin, que ce soit le réseau Al-Qaïda, qui est un réseau transnational, ou le réseau maintenant de l'EIL, qui est issu quand même de cette histoire d'Al-Qaïda, hein, les deux ayant quasiment les mêmes commanditaires à l'origine, hein, commanditaires qui continuent du reste à financer un certain nombre de ces dispositifs, que sont les Saoudiens, les Qataris, enfin ces grandes monarchies de la péninsule arabique. J'irai là aujourd'hui, si vous voulez, la sublimation dans laquelle nous sommes et dont les médias se font les relais ne concerne en effet que quelques milliers de personnes, voire quelques centaines d'excités, très très facile du reste à localiser et à identifier, ne sont que le résultat d'une confrontation entre le vieux réseau d'Al-Qaïda transnational qui avait préconisé un mode d'action de terreur sans être accroché à un territoire, et un autre mode qui, avec le fameux ce fameux calife Bakr al-Baghdadi, qui lui est en rupture avec la stratégie de Zawahiri d'Al-Qaïda, hein, et tout ça s'est passé il y a 3-4 ans, hein, donc on a vu les prémices, si vous voulez, de cette rupture entre le front al-Nusra, notamment sur la Syrie, et puis le IL qui est né justement de ces contradictions sur la zone irakienne et la zone syrienne. Et en effet, je dirais, ces groupuscules qui sont en fait des sectes quasiment apocalyptiques, hein, quand on connaît bien le problème de l'islam et du monde musulman, du reste, ce monde musulman, le monde arabo-musulman, ne se reconnaît absolument pas dans ce qui se passe aujourd'hui avec le IL. Ce sont des sectes apocalyptiques qui partent du principe que
c'est l'ordre du temple solaire musulman.
Oui, c'est le monde, c'est la fin du monde, et que donc ne seront sauvés que ceux qui reviennent à une certaine lecture littérale de l'islam, lecture littérale qui est un peu prônée par notamment le wahhabisme, qui se sont enfermés dans un certain nombre de fatwas et un certain nombre de visions très 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 brutales et j'irais primaires et rustiques de cette lecture de l'islam, et ce n'est absolument pas la vision du monde arabo-musulman aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut pas confondre, si vous voulez, ces quelques dizaines de milliers de personnes qui sont extrêmement brutales avec le milliard et demi de musulmans qu'on a dans le monde. Faut faire très très attention, si vous voulez, aux amalgames qui sont faits. Mais ces gens-là ne peuvent pas fonctionner s'ils ne génèrent pas une menace, et s'ils ne jouent pas sur la terreur, et s'ils ne jouent pas sur les angoisses et les peurs des populations, comme les médias font leur audience sur cette, en vendant de l'angoisse et de la peur.
Sur cet événement.
Comme nos politiques existent aussi, en étant, en jouant un peu
les défenseurs de la
défenseurs de la liberté, de la sécurité, etc., etc. Tout le monde en rajoute un petit peu et on a des asymétries, des surdimensionnements par rapport à des situations qui sont quand même sur le terrain extrêmement limitées.
Alors, on comprend mieux, en effet, le pourquoi. Néanmoins, il y a quelque chose qui trouble beaucoup, c'est d'une part l'emprise de certaines pétromonarchies comme le Qatar en France, il faudra peut-être qu'on en reparle, qui pose des questions.
Il y a un très bon bouquin qui a été fait par Péan.
Oui,
qui s'appelle Une France sous influence, que je recommande à vos lecteurs.
Oui,
et qui est redoutable, hein. Redoutable en termes d'information. Je ne sais pas où il est allé chercher ces informations, mais il est redoutable parce que il montre le niveau d'infiltration, si vous voulez, du Qatar dans les affaires françaises.
Et justement, j'allais parler d'éventuelles menaces sur la simple souveraineté de la France eu égard à cette pénétration au sein d'un certain nombre d'élites françaises du Qatar, et puis de financement qui objectivement, sans même parler,
élite inculte, complaisante et assez idiote dans leur mode de fonctionnement.
Mais et qui ont en plus donné des gages
importants.
Fiscaux au Qatar avec en les exonérant d'impôts.
C'est en train un petit peu de se modifier là sur le fond, parce que les Qataris ont beaucoup irrité notamment les Saoudiens. Parce que tout ça, il y a un jeu local qu'il faut arriver à décrypter. L'éviction de l'émir et de son premier ministre et le remplacement par la guerre de succession qui s'est engagée avec le remplacement par le prince Tamim a beaucoup changé le mode de fonctionnement de cette monarchie.
Alors justement, vous parliez du Qatar et de l'Arabie Saoudite comme des, sinon commanditaires, en tout cas financeurs de ces mouvements terroristes.
C'est une maîtrise d'ouvrage, comme on en a d'autres dans le monde. Voilà.
Ce qui étonne, c'est que finalement, on a l'impression que leur lecture littérale passe avant leurs propres intérêts. Je m'explique. Il n'y a pas, disons-le, de véritable issue pour l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui un jour ou l'autre seront confrontés à la fin du pétrole et à la question de maintenir les avoirs qu'ils ont obtenus grâce au pétrole, donc les actions, les terrains, les immeubles, les hôtels qu'ils ont achetés un peu partout en Occident. Il n'y a pas de sortie par ce biais-là. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est donner tous les arguments possibles pour demain les exproprier et les faire retourner dans le désert avec leurs chameaux et leurs chèvres.
Oui, mais il faut pas les prendre pour des idiots, parce que je vais vous dire...
Pas du tout. Et c'est pour ça, là encore, je vous dis, je ne comprends pas, nous ne comprenons pas nous Français occidentaux. Pourquoi ?
Ben, moi, je vais donner ma lecture des choses, parce que ça fait déjà depuis 10-15 ans, et ça je l'ai dit souvent sur différentes antennes, que se joue un grand jeu sur l'ensemble de cette zone entre la péninsule arabique et l'Eurasie. Avec entre les deux, notamment ce corridor avec le Tigre et l'Euphrate, qui avec ce pays artificiel qui a été construit après les accords Sykes-Picot, qui est l'Irak, comme la Syrie du reste, hein, qui sont des dessins artificiels sur le plan des frontières. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une déconstruction du traité de Versailles, on le voit bien notamment sur l'Europe, cette déconstruction des accords de Sèvres, du traité de Lausanne, etc. C'est une remise en cause des accords Sykes-Picot sur l'ensemble du Proche et Moyen-Orient, c'est-à-dire ce qu'on avait mis en place pour casser l'emprise de l'Empire ottoman. Et là, on va même plus loin que ça, c'est la remise en cause même des accords qui ont été signé par les Américains, notamment juste après Yalta, quand Roosevelt est descendu en Arabie Saoudite, et qu'il a passé un accord sur le Kinsey, qu'on appelle ça le pacte de Kinsey, avec la famille Saoud, pas avec le pays, avec la famille Saoud, pour assurer la sécurité de la dynastie. Oui, enfin bon, on protège une famille. On protège une famille, et dans le jeu oriental, on sait ce que ça veut dire, parce que tout est quand même très tribal. On est très très loin des systèmes démocratiques que l'on peut connaître, notamment au nord de la Méditerranée. Là, on est dans des jeux qui sont des jeux féodaux. Donc, on protège la famille Saoud contre la garantie d'un verrouillage de la sécurité énergétique. Or, ça fait depuis 10-15 ans que l'on sait que ce nœud saoudien, enfin de la péninsule arabique, et va vers des difficultés à moyen terme, et que ce nœud sécuritaire, ce plan énergétique, est en train de remonter sur la zone eurasienne, c'est-à-dire on retrouve les puits de Mossoul, on retrouve bien entendu ce qui se passe en Iran, ce qui se passe aussi au Kazakhstan, ce qui se passe dans le Caucase, ce qui se passe en Ukraine, enfin tout ce que j'appelle ce nœud eurasien. Sauf que là, sur ce nœud eurasien, on a un interlocuteur qui s'appelle la Russie. Jusqu'à présent, tant qu'il y avait du Gorbatchev, de l'Eltsine, etc., les Américains pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Les Saoudiens pouvaient bricoler avec les Américains sur l'ensemble de la zone du Moyen-Orient, espérant pouvoir, à un moment ou un autre, avoir une emprise sur ce qu'on appelait le Grand Moyen-Orient avec les Américains. Et c'est pas ce qui s'est joué, notamment avec l'arrivée de Poutine. Poutine a repris le contrôle de la zone eurasienne, a réimprimé son leadership sur la question, et conditionne aujourd'hui, notamment, toutes les stratégies dérivation des grands trajets des gazoducs qui devaient partir du Qatar pour aller alimenter, ou même de l'Arabie Saoudite pour aller alimenter notamment l'Europe. Et aujourd'hui, il y a une guerre extrêmement importante qui est où les Saoudiens et les Qataris obligent les Américains à venir à leur côté pour pouvoir réouvrir ce nœud eurasien, contraindre Poutine à n'être qu'un acteur marginal de ce jeu eurasien, faire passer l'essentiel des gazoducs par la Turquie, remonter par les Balkans, et par ce biais-là, continuer, si vous voulez, à avoir une emprise sur le jeu européen. Alors, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Poutine a repris la main sur l'Eurasie. Les Qataris et les Saoudiens se sont vus bloqués, notamment au travers du projet Nabucco, qui n'a pas pu voir le jour avec la question syrienne. Et ils ont financé plein de mouvements d'opposition ici en Syrie, partout dans le Moyen-Orient, etc.
Pour essayer de
venir au cœur du jeu. Ils savent que ils ne sont plus au cœur du jeu territorialement, et donc ils veulent avoir une main sur l'ensemble de ce proche Moyen-Orient.
Se projeter dans d'autres territoires.
Et alors, au-delà de la question stratégique qui est celle du gaz et du pétrole, qui est quand même très dimensionnante pour nos économies et nos sociétés, faut pas se faire d'illusions. Il y a aussi la question religieuse et la question de la souveraineté, d'une certaine vision théocratique de ce que doit être l'islam. Et en effet, il y a en même temps, avec l'argent du gaz et du pétrole, l'intention de répandre la vision wahhabite de l'islam sur l'ensemble de cette zone-là. Quand l'émir du Qatar avait dit au début des événements « je fais très laïd », à Damas l'année prochaine. Ça avait une signification considérable. Ça voulait signifier, si vous voulez, que cette petite monarchie qui est sur le rivage du Golfe allait rejouer ce qui a été la grande période de l'histoire de l'islam avec l'établissement du premier califat à Damas. Je veux dire, faut jamais oublier que en fait ceux qui ont vraiment financé le YEL, c'est quand même le Qatar. Hein. Donc il y avait qu'une stratégie qui était de prendre le contrôle de Damas puis de Bagdad après. Voilà. Donc on est là aujourd'hui. Il faut voir qu'en même temps vous avez sur cette stratégie-là, vous avez des enjeux qui sont considérables, parce que je vous parle de ce nœud eurasien, mais on vient de découvrir sur l'ensemble de la Méditerranée orientale des capacités gazières considérables qu'on appelle le champ du Léviathan, qui est au sud de Chypre, mais qui aussi touche les rivages du Liban, de la Syrie, d'Israël, de la Palestine.
Alors nous allons
pas de la Turquie, mais si c'est évident que par exemple si le YEL venait à prendre via toute la subversion qui sont en train de monter sur le Liban en ce moment, venait à prendre le contrôle du port de Beyrouth ou de la façade libanaise, ils auraient accès non seulement à un port de rupture de charge, mais en même temps avec toute une
par zone
de production, de production gazière. Donc ce serait donné et cette zone là. Est quasiment considérée aujourd'hui comme étant quasiment aussi importante que le grand champ, qui est parmi un des plus grands champs du monde, qui est entre le Qatar et l'Iran, sur la zone du Golfe. Donc vous voyez, les enjeux sont considérables. Donc la bataille qui se joue aujourd'hui, elle est phénoménale. Avec en embuscade, autour de ce jeu central et où se joue la bataille de l'énergie, et une bataille d'influence sur une certaine vision de l'islam, l'Iran, la Turquie et l'Égypte. Faut que vos auditeurs aient bien en tête, si vous voulez, que vous avez trois grandes puissances centrales qui ont toujours été majeures dans l'histoire du Proche et du Moyen-Orient, qui sont là, aux quatre pointes de ce grand triangle qui est cette zone du Proche et Moyen-Orient, et qui attendent leur moment, qui attendent le moment pour pouvoir leur entrer dans le jeu ou le perturber en fonction de leur logique d'intérêt.
Voilà. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. J'ai le plaisir de recevoir Xavier Guillou, spécialiste des relations internationales de la gestion de crise. Et nous nous entretenons sur l'actualité internationale et les enjeux du temps présent. Alors, vous nous avez brossé un tableau tout à fait passionnant et je rebondis toujours sur ce que nous avions évoqué il y a plus de 2 ans maintenant et on avait parlé des 1 000 milliards de la Grèce qui avait été donnée finalement à peut-être à leur corps défendant mais par l'ensemble des Européens pour sauver...
Plus Chypre, parce qu'il faut ajouter Chypre.
Chypre et la Grèce. Et aujourd'hui, venez de nous dire au détour d'une phrase qu'il y aurait dans ces eaux territoriales peut-être autant de pétrole que autour de l'Arabie Saoudite et du Qatar et du gaz. Mais comment ne le découvre-t-on que maintenant alors que nous cherchons du pétrole depuis des décennies?
Tous ceux qui ont fait main basse, je dirais, sur ils ont spolié la Grèce et Chypre, savaient très bien qu'il y avait ce backup pétrolier et gazier qui était non pas en discussion mais en exploration et avec des logiques opérationnelles qui commencent à se manifester aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de permis qui ont été accordés, il y a des zones sur lesquelles vous avez des entreprises comme Total qui prospectent. Vous avez même la Marine nationale française, DCNS, je veux dire, pas la Marine nationale, qui a proposé de mettre en location deux frégates françaises pour assurer la sécurité des eaux territoriales grecques. Donc je veux dire, tout le monde est très intéressé par ce backup que la Grèce offre. La Grèce pourra payer puisque
cette sécurité
la Grèce pourra payer. Voilà.
D'accord.
Voilà. Les Allemands savaient très bien.
Donc on ferme les yeux sur le. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que la Grèce est en train de devenir une pétromonarchie et qu'au lieu de s'intéresser.
Faut un peu de temps encore.
Et qu'au lieu de s'intéresser à savoir si elle gère bien ses finances publiques, on ferait mieux de se préoccuper d'avoir sa ligne d'approvisionnement directe.
On devrait regarder un petit peu comment est gérée cette affaire pétrolière et gazière, et on devrait aussi regarder un peu plus comment se structure aujourd'hui. Toute la logistique est en train de se mettre en place à partir de la Grèce pour pouvoir approvisionner notamment l'ensemble de l'Europe. Je rappelle quand même que les Chinois qui sont quand même redoutablement informés, n'ont pas choisi n'importe comment le port du Pirée pour pouvoir s'installer sur le flanc sud de l'Europe.
Voilà. J'oubliais, merci Xavier Guillou, mais
comme ils ont
que ne le lit-on pas dans tous les grands éditos de nos grands journaux, parce que tout cela permet quand même de mieux comprendre, d'expliquer, pas forcément de justifier toujours, mais c'est fascinant.
Il suffit, vous savez, de suivre.
Et c'est une bonne nouvelle pour l'Europe.
Oui, je suis pas inquiet pour l'Europe. Je pense que l'Europe va avoir à assumer les effets de toute cette réelle politique qui est en train de s'installer au niveau international, et que donc il y aura des moments difficiles, puis il y aura des moments enthousiasmants. Mais grosso modo, sur le fond, l'Europe. Aura des capacités, je dirais, d'approvisionnement énergétique. Le tout, c'est de savoir qui va les contrôler et de quelle manière on va pouvoir discuter avec ces pays-là, hein, puisque aujourd'hui, c'est sûr que c'est entre les mains des Russes, des Qataris, des Algériens. Mais si les Grecs arrivent demain et s'il y a du gaz de schiste qui arrive aussi par l'Ouest, si les routes nord s'ouvrent au niveau de l'Arctique, etc., bon, on a d'autres combinaisons qui se mettent en place. Par ailleurs, c'est vrai que, par exemple, les Chinois sont en train d'arriver un peu partout autour de l'Afrique et aussi autour de l'Europe. Qu'ils s'installent sur des points de rupture de charge stratégiques, qui vont modifier un certain nombre de profils, je dirais, de logistique hein, ou de support pour nos logiques de vie. Et quand je vois que les Chinois, par exemple, s'installent au Havre, s'installent du côté de Rotterdam, Nanterre, etc., parce que eux sont sur la stratégie aujourd'hui des nouvelles routes de la soie avec tous ces tracés ferroviaires qui sont en train de se mettre en place sur l'ensemble du centre de l'Eurasie. Qui vont passer du reste par la zone ukrainienne, biélorusse, etc., pour aller sur les terminaux d'Anvers, Rotterdam et du Havre. Bon, c'est pas une mauvaise nouvelle. Je veux dire, ça veut dire qu'on va avoir une grande partie de ce qui se passe sur l'Asie aujourd'hui, qui est quand même c'est là où on fabrique la création de richesse aujourd'hui. Il va y avoir des liens qui vont se faire avec
direct et avec, non plus par le détroit d'Ormuz.
Oui, je dirais les deux milieux. Si vous voulez avoir de la bonne information sur ce qui est en train de se mettre en place au niveau international, sur les décennies qui viennent, vous suivez le monde maritime et le monde de l'énergie. Voilà, c'est ceux qui, à peu près grosso modo, 15-20 ans d'avance sur l'actualité. Après, derrière, vous avez les banquiers et les financiers qui, eux, financent un certain nombre de décisions qui ont été prises par ces milieux-là. Et puis après, vous avez le monde politique qui arrive généralement le dernier.
Après la bataille.
Le dernier, et qui, lui, va jouer selon ses logiques d'intérêt avec les uns ou avec les autres, selon sa vision plus ou moins court-termiste de l'affaire. Si vous êtes en Allemagne, vous allez raisonner à 5-10 ans. Si vous êtes en France, vous allez raisonner à 5-6 mois.
Alors, il y a déjà quelques remarques, réactions ou questions d'auditeurs. Une auditrice, pouvez-vous nous redire le livre que vous venez de recommander?
Alors, c'est un livre qui a été signé, co-signé avec Pierre Péan et qui s'appelle Une France sous influence. Voilà. On trouve ça en pile chez les libraires. C'est mieux que le livre de Madame Trittweiler et c'est beaucoup plus complet sur le niveau de pénétration de tous ces réseaux externes qui essayent de prendre le contrôle des intérêts majeurs de notre pays.
Un auditeur nous dit merci pour la qualité de vos émissions. Pourquoi ne détruisons-nous pas les puits de pétrole? Ce serait une excellente stratégie. Oui, ces puits de pétrole amènent la manne. Est-ce une politique de gribouille?
C'est ce que je dis toujours. L'énergie, c'est la clé de voûte de l'ensemble de notre système de vie. Cette clé de voûte, elle a deux pierres de soutènement, c'est l'habitat, le logement, et la motricité, c'est-à-dire la capacité de se déplacer, la voiture. Sans la logique d'habitat, nous ne pouvons pas, vivre, et sans la logique de la motricité, nous ne pouvons pas travailler ou nous déplacer. Toute la valeur ajoutée de nos pays, elle est basée là-dessus. 80% des dépenses des ménages et de l'endettement de nos sociétés tient sur ces logiques-là. Et donc l'énergie est à la base de tout. Et donc si on veut vraiment solutionner le problème, il faut arrêter d'avoir des 4x4, il faut arrêter d'avoir du bien-être et du confort chez soi, il faut arrêter d'avoir de la climatisation, il faut arrêter d'avoir du chauffage, il faut arrêter d'avoir de l'électricité, il faut arrêter beaucoup de choses. Voilà, il faut se donner les moyens de notre propre autonomie. si on ne veut pas, et les moyens de notre propre autonomie, c'est des investissements considérables qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui sur la transition énergétique, qui est pas du tout une affaire secondaire, qui est un véritable sujet, et ne plus être dépendant, je dirais, de ces énergies fossiles, qui certes offre le meilleur rendement aujourd'hui énergétique.
Mais pour autant qu'on y ait accès.
Mais nous, sont pas chez nous. Et puis, conditionne, en effet, des logiques d'allégeance ou des logiques, alors pour certains, c'est simplement des logiques de courtisans, pour d'autres d'allégeance, pour d'autres de contrôle, de domination, etc., selon le niveau d'autorité ou de souveraineté que l'on exerce dans nos pays.
Énergie fossile qui d'ailleurs arrive un peu à
leur fin. Oui, on sait bien qu'on est face.
On ne sait pas quand, mais la question de ce qui est appelé le peak oil, ce qui veut dire le point d'inflexion,
c'est ça,
en français sur la radio du pays réel et de la francophonie, sont une véritable question puisque le jour où on se retrouvera de l'autre côté, certains disent qu'on y est déjà.
On y est quasiment.
C'est l'ensemble de notre relation justement à cette énergie qui est bouleversée.
Ouais, mais là-dessus, vous avez, c'est la poule et l'œuf parce que vous avez dans le monde de l'énergie, vous n'avez pas une compagnie pétrolière qui ne vous dit pas que le point d'inflexion est proche ou passé. Il n'y en a pas une. Tous ont des analyses avec les courbes, etc. Et bon. Maintenant, après, vous avez dans le trading et puis vous avez dans d'autres milieux énergétiques, beaucoup vous disent, mais il suffit de gratter dans le sol et puis on trouve toujours quelque chose. Surtout si le prix du baril est à 100 $, ça vaut le coup d'aller chercher en grande profondeur au niveau des océans ou d'utiliser les technologies pour extraire le gaz de schiste ou les schistes bitumineux, etc. Et on trouvera toujours quelque chose. Ce qui fait qu'on repoussera de toute façon l'échéance. Mon analyse, c'est que de toute façon, quelles que soient les tribulations des uns et des autres, nous sommes aujourd'hui confrontés à un problème d'offre-demande qui est gigantesque avec l'émergence. Le problème, c'est pas tellement les réserves, c'est l'émergence de plein de pays qui ont décidé d'épouser nos codes de modernité et de rentrer dans cette matrice où l'énergie est la clé de voûte et qui sont demandeurs. Et donc, aujourd'hui, on est capable de pouvoir aligner 80-90 millions de barils jour au niveau mondial. On sait que le jour où, par exemple, l'Inde commencera à rattraper la Chine en termes de classe moyenne, mais les autres pays d'Amérique latine, une partie du continent africain, etc., la demande sera autour des 120-150 millions de barils jour. Et ça, c'est à horizon de 30 ans. Et là, on les a pas. On peut faire tous les bricolages qu'on veut, même avec les schistes bitumineux, tout le bashing, cette espèce de lavage de cerveau que l'on a pour rester dans la langue française, au niveau notamment des grands milieux énergétiques américains aujourd'hui qui essayent de faire bouger cette problématique de la sécurité énergétique qui est verrouillée sur l'Arabie Saoudite et sur le proche Moyen-Orient, même malgré les schistes bitumineux, on ne pourra pas répondre à cette équation telle que c'est aujourd'hui. Et donc on va se retrouver à un moment ou à un autre devant un mur. On peut pilonner tous les puits de pétrole. Enfin, je veux dire, le problème, c'est là où on est samedi 13h. Vous allez sur la sortie de Paris et vous allez voir tout le monde à son 4x4 et tout le monde part.
Je crois que ce que voulait dire l'auditeur de Radio Courtoisie, c'est que il s'agit d'assécher ponctuellement des ressources de certains bandits finalement qui se prêtent.
Ouais, mais là on est dans un truc je vais pas dire de dingue mais quand même qui est assez faramineux sur le terrain. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui il faudrait assainir la situation et même passer des accords stratégiques entre producteurs et consommateurs d'énergie fossile. C'est l'inverse qu'on fait. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons, les Américains sont en train de s'opposer aux Russes. Alors que la vraie stratégie aurait été de s'allier avec les Russes là-dessus. Ils s'opposent aux Russes, ils reviennent dans un jeu avec les Saoudiens et les Qataris dont ils étaient... Obama cherchait plutôt à en sortir parce qu'il est beaucoup plus préoccupé par une projection de sa stratégie sur le Pacifique Nord que sur la Méditerranée et sur le Proche-Moyen-Orient. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec des guerres des prix qui sont en train de se passer sur le champ du gaz et notamment du pétrole pour faire baisser les prix de façon à faire tomber les gouvernants en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les Américains essayent de rejouer la stratégie de baisse des prix sur le gaz et le pétrole pour faire tomber Vladimir Poutine. Vous voyez, mais en même temps, ça met à mal les Qataris et les Saoudiens qui perdent des revenus. D'où cette précipitation pour essayer de prendre encore plus vite le contrôle de certaines zones et de certains débouchés de façon à pouvoir avoir encore plus d'emprise sur les... Donc on est dans un truc de dingue où au lieu de bâtir des stratégies qui seraient des stratégies durables qui nous permettent de pouvoir bien gérer intelligemment la transition énergétique, on est en train plutôt de basculer dans des logiques effrénées de rapports de force qui ne sont pas forcément des rapports de force conduits avec des logiques, je pèse mes mots, hein, avec des logiques étatiques, mais avec des logiques de lobby qui profite de la défaillance ou de la faiblesse de nos social-démocraties aujourd'hui un peu partout, parce que même Obama est faible. Hein. Quand on voit qu'Obama est obligé de passer deux fois devant le Congrès pour pouvoir ajuster sa dette, c'est pas mieux, si vous voulez, que nos social-démocraties qui achètent la paix sociale et la paix civile à tour de bras en allant sur les marchés s'endetter à taux bas pour pouvoir acheter cette dette. Mais aujourd'hui, ce sont des lobbies qui s'exercent et qui s'affrontent pour pouvoir essayer d'avoir un leadership sur ce management de l'énergie, sachant que derrière, les effets de levier en termes de business sont considérables. Quand vous voyez par exemple les Dick Cheney, les McCain et consorts que l'on retrouve sur l'Ukraine, sur l'Eurasie, que vous retrouvez en Syrie, que vous retrouvez aujourd'hui dans l'affaire irakienne et autres, faut voir que ces individus, ces réseaux, pour prendre que les réseaux américains, hein, sont avec des think tanks derrière et des entreprises derrière aussi riches, aussi dotés de moyens que des États. Alors, eux, ce sont eux aujourd'hui qui sont quasiment aux commandes et qui contraignent les États, y compris même les nôtres, hein, qui contraignent les États à rentrer dans ces conflits régionaux malgré eux. Donc on n'est pas dans une situation, si vous voulez, qui est une situation maîtrisée, hein, de cette
chaque de rapports de force. A sa propre,
chaque acteur propre... a ses propres intérêts, ses propres enjeux, et nos États sont relativement faibles ou défaillant par rapport à ces logiques-là.
Alors, un dernier message, peut-être deux autres messages d'auditeurs. Un auditeur de Radio Courtoisie, la Turquie est-elle le mercenaire discret de l'Arabie Saoudite ? Un autre auditeur qui revient sur qui fait référence à ce que nous avons évoqué il y a quelques minutes, ce que l'on ne comprend pas, c'est que l'enjeu d'une guerre subversive est le contrôle de la population. Celui-ci s'obtient par la terreur. L'État séparé de la population tombe ensuite comme un fruit mûr.
Oui.
Les terroristes musulmans sont comme des poissons dans l'eau en France, du fait d'une population halogène dont le gouvernement ne contrôle plus l'accroissement. Il ne faut pas croire que les prétendus musulmans modérés soutiendront une classe politique aussi dégénérée et corrompue que la nôtre. En tout cas, ils ne joueront pas leur vie pour cela.
Une vraie question. Le
propos est peut-être un peu brutal,
mais
la question est intéressante.
Moi, je suis pas du tout langue de bois en la matière, et question mérite d'être posée.
Et c'est intéressant parce que beaucoup disent aujourd'hui qu'elle ne mérite pas d'être posée.
Si, il faut qu'elle soit posée. Il faut qu'elle soit posée, et je dirais même que si les Français ne la posent pas, les membres de la communauté arabo-musulmane française la posent pour eux-mêmes.
Parce qu'il faut quand D'accord, même... ça c'est intéressant.
Il faut quand même savoir que aujourd'hui, dans la stratégie, pour reprendre cette stratégie de l'EIL, qui est celle qui est la plus terrorisante et qui pratique de façon absolue la terreur physique, psychologique, médiatique, tout ce qu'on peut imaginer. Cette dynamique-là, si vous voulez, elle s'exerce d'abord vis-à-vis des musulmans. Il faut voir que l'EIL, pour un chrétien qui est exécuté au Moyen-Orient, hein, au Proche-Orient, vous avez 9 musulmans qui sont exécutés. Donc la première stratégie de l'EIL, c'est d'abord de frapper tous ceux que l'on qualifie d'apostats. c'est-à-dire tous ceux qui sont théoriquement qui devraient adhérer au monde arabo-musulman et à un certain islam et qui ne le font pas parce que c'est un islam plutôt laïque ou un islam plutôt tolérant, enfin ce qu'on appelle tolérant, etc. Bon. Donc le monde arabo-musulman se pose la question parce que c'est la première victime. Et n'oubliez jamais que Mohamed Merah, il a d'abord exécuté qui ? Il a exécuté des soldats français de confession musulmane. Et c'est dans la stratégie de Al-Souri qui
il y en avait qu'un de confession musulmane. Les autres étaient de confession chrétienne et juive.
Oui, oui, mais enfin les deux ou trois qui ont été assassinés alors qu'ils prenaient de l'argent à un distributeur, c'est pour montrer à l'ensemble du monde musulman. C'est dans la stratégie d'Al-Souri. Hein. Donc quand il a fait la doctrine de l'EIL, hein, c'est pas Al-Baghdadi qui a conçu cette doctrine, c'est exactement si vous voulez comme Al-Zawahiri pour Al-Qaïda à côté de Ben Laden. Il a bien précisé qu'il fallait en priorité exécuter tous ceux qui étaient les alliés de l'Occident
au sein du monde arabo-musulman
et notamment des soldats ou des officiers qui seraient de confession musulmane et liés au monde arabo-musulman et qui serviraient dans les troupes occidentales et donc vous avez eu ça en Angleterre, vous avez eu ça en France, etc. Puis après il y a eu ce qui s'est passé avec l'école juive, donc on est sur des symboliques si vous voulez très très fortes et la question mérite d'être posée. La question mérite d'être posée. Et là, on pourra travailler beaucoup sur les affaires de terrorisme et de contre-terrorisme. C'est tout le problème, si vous voulez, de l'effet de levier de la terreur sur l'opinion publique et sur nos populations. Il est vrai qu'en France, cet effet-là est important. Mais en même temps, on est peut-être un des rares pays en Europe à avoir mis en place des mesures de lutte antiterroriste qui ont été toujours soutenues par la population. Un peu comme en Angleterre. Toujours soutenues par la population et qui ont toujours été quand même avec un niveau d'efficience assez fort. Les Français sont pas au courant de ce que font les services secrets ou les services de sécurité, mais je peux vous dire qu'ils démantèlent tous les jours des réseaux, ça ne se sait pas, il y a une action en profondeur et avec une certaine non seulement efficacité mais une certaine performance. La deuxième chose, c'est une question de fond sur laquelle j'ai pas la réponse, mais les Français ont toujours très mal réagi dans l'histoire avec ces problématiques religieuses. Ça s'est mal passé avec le monde juif à l'époque de Philippe Bel, ça s'est mal passé avec le monde protestant. Je veux dire, dès qu'on dépasse un certain niveau d'agressivité ou de terrorisation sur ce champ-là, ça se passe jamais bien en France. Voilà. Alors comment, en plus de ça, on a érigé la laïcité en religion d'État ?
Oui, il y a un argument tout trouvé
pour pouvoir aller même parfois, je dirais presque plus loin que les Israéliens.
La laïcité bien comprise permettrait.
Vous n'aurez pas, par exemple, au niveau des services de sécurité français, le même débat que vous avez eu avec ce fameux film Greenkeepers sur ce champ de la lutte antiterroriste en France. Ça, je peux vous le garantir. Parce que là, vous avez un niveau, si vous voulez, d'adhésion et d'engagement de l'ensemble des circuits qui assurent, je dirais, aux régaliens, quelle que soit la qualité du régalien, mais qui assurent aux régaliens une tenue sécuritaire du pays qui est quand même de bon niveau. Maintenant, ça n'exclut pas, en effet, que nous soyons confrontés, comme nous l'avons été confrontés, rappelez-vous les années 80, enfin les attentats de la rue des Rosiers, Tati, etc., à des vagues brutales et puis même significatives sur la France. Hein. Mais je ne sous-estime pas, si vous voulez, la capacité des services sécuritaires aujourd'hui à faire leur job.
Ce qui veut dire aussi, puisque c'est finalement assez optimiste et plutôt rassurant, qu'un tout petit peu de volonté de nos gouvernements suffirait quand même à juguler une partie de la menace.
Oui, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il faut aussi travailler avec le monde arabo-musulman. Et je pense que, à mon avis, enfin là, c'est une analyse personnelle. Mais je pense qu'il vaut mieux, si vous voulez, travailler avec le roi du Maroc, qui est commandeur des croyants et qui a une certaine influence sur notamment toute une communauté de rythme malikite, etc., qui est très présente en France, plutôt que d'aller faire des ronds de jambes à la monarchie qatari, qui, elle, derrière... ou même à l'Algérie, là on peut beaucoup en débattre, mais d'aller faire des ronds de jambes à des gens qui de toute façon vont financer des réseaux subversifs à l'intérieur de la France. Je pense qu'à un moment donné, si vous voulez, il faut savoir ce que l'on veut pour notre pays et ce que l'on veut sur le plan sécuritaire et sur le plan stratégique pour notre pays. Alors c'est vrai que pour soutenir le commerce extérieur, ceux qui achètent des armes ou nous achètent des gros contrats, que ce soit pour le bâtiment, les travaux publics ou pour certaines industries manufacturières, ce sont les Qataris, les Saoudiens qui font des chèques d'un ou deux milliards. Et dans la situation actuelle, c'est évident que ça permet de pouvoir soulager les...
D'autres achètent des frégates.
D'autres achètent des frégates, etc., notamment les Saoudiens, etc. Donc ça permet de pouvoir alléger notre déficit chronique. Mais est-ce pour autant une stratégie? C'est la question que je pose aujourd'hui. Je pense que si on veut rentrer dans la dimension stratégique, il faut d'abord commencer par remettre au carré notre mode de fonctionnement, notre mode de vie, notre système de dépenses publiques qui part à volo en permanence, et puis ce côté infantile du fonctionnement de l'État-nation aujourd'hui qui permet aux politiques, si vous voulez, d'aller faire des allégeances à droite et à gauche, que ce soit aux Américains, que ce soit aux Qataris, aux Saoudiens, ou soit aux Allemands, etc., et qui mettent un peu en croix notre... c'est tous les jours, hein. C'est tous les jours, hein. C'est Monsieur Hollande.
Le grand public ne le voit pas.
Enfin, c'est Monsieur Hollande qui
on ne lui dit pas.
Qui va aux États-Unis et qui est presque plus que jusqu'au boutiste que tous les autres pays européens pour signer quasiment le traité de libre-échange. En donnant quelques gages sécuritaires, c'est-à-dire que pour les Américains, on va faire un peu de sous-traitance de lutte antiterroriste au Sahel et au proche Moyen-Orient. On peut très bien aller faire ces actions de lutte antiterroriste sans avoir besoin de faire allégeance aux uns et aux autres. Alors, les Français sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. En plus, ça, on n'est pas très mauvais sur ce type d'action.
Ce que vous venez de dire.
Qui est de la garde raide. C'est-à-dire, on a des unités qui savent très très bien faire, qui sont des unités terrestres, aériennes ou même navales. On n'a pas besoin de se faire compter par les autres, le cahier des charges. Même si on est faible sur le plan logistique, même si on a des trous dans la raquette, pour autant, on a quand même des capacités et on a quand même aussi un leadership qu'on peut exprimer. Mais il faut la même chose quand il va voir Angela Merkel en négociant des rallonges sur le déficit. Bon, puis il fait la même chose quand il va au Moyen-Orient où il demande un chèque d'un milliard aux Saoudiens, puis après un autre chèque aux Qataris, etc., pour assurer la trésorerie courante et éviter que un certain nombre de grands domaines qui sont proches de l'État, notamment l'armement, soient en difficulté.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. J'ai le plaisir de recevoir Xavier Guillou. Xavier Guillou est un spécialiste de la gestion des crises de grande envergure et des relations internationales. Et nous nous entretenons sur, l'ensemble de l'actualité internationale. Il y a beaucoup de messages d'auditeurs. Nous avons essayé déjà de leur donner la parole.
Oui, je vois la pile qui
augmente.
Ça, c'est pour les auditeurs. Je vois la pile qui augmente,
mais qui montre tout l'intérêt qu'il y a à vous entendre et à entendre vos analyses. Lorsque nous avons préparé cette émission, vous m'avez suggéré d'aborder un thème tout à fait passionnant, qui est celui de l'intangibilité des frontières. Oui. C'est une sorte de dogme dans les relations internationales et plus particulièrement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'aimerais que vous nous disiez...
Première et Seconde Guerre mondiale.
Première, oui. Ouais. Enfin, la Première Guerre mondiale n'a pas montré en la matière un résultat extraordinaire.
Non, mais ça a été laborieux, mais on est arrivé après avec la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, et aujourd'hui tout cela semble bouger, rebouger, peut-être tout simplement parce qu'après la Troisième Guerre mondiale, qui est la fin de l'affrontement entre le bloc Est et Ouest, eh bien l'histoire reprend ses droits.
Exactement. Et en bon historien, je recommande toujours aux auditeurs de prendre un atlas historique et de regarder comment le monde a respiré au cours des siècles. Et cette question des limites, des frontières, est une question, je dirais pas éternelle, mais enfin qui touche notre humanité depuis que l'humanité a conçu une certaine a conçu la vie politique et depuis quelques siècles les relations internationales. Il est clair que derrière le traité de Westphalie, puis ce qui s'est passé avec le traité de Versailles et la création de la SDN, et puis après derrière avec Yalta et l'émergence des Nations Unies, l'intégrité des frontières est une question qui est essentielle, quoi. Parce que bon, on a imposé des dessins sur un certain nombre de continents, que ce soit au proche Moyen-Orient, je parlais des accords Sykes-Picot tout à l'heure, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, tout ça sont des pays qui sont des pays artificiels, hein, mais on a la même chose sur l'ensemble de l'Afrique, hein, avec au moment de la colonisation et après la décolonisation, il y a un certain nombre de frontières qui sont installées, notamment sur le 35e parallèle, qui sont totalement artificielles. Or, tout ça est en train de se fractaliser, de se déconstruire depuis une bonne trentaine d'années. Moi, j'ai participé à plein de crises internationales, j'ai vécu ça sur le terrain. Bon, bah, ça a commencé pour nous avec la chute du mur, hein. Avec la chute du mur, nous avons un certain nombre de pays qui sont revenus aux Nations Unies, même des pays neufs, hein, par exemple la Tchéquie, la Slovaquie, deux pays. Mmh. Et puis après, il y a eu les Balkans. Balkans, 8 pays. Et puis ensuite, vous avez sur l'Afrique un certain nombre de... Vous prenez le Soudan, par exemple, 2 pays. Demain, on peut très bien avoir 3 pays sur la Libye. Je vois bien 2 pays sur le Mali. Et je peux continuer comme ça sur tout un tas de zones de critiques.
Quelle est votre vision
sur
de
l'Ukraine,
la
nous allons aller,
ukrainienne
nous allons aller comme sur la Géorgie avec l'Abkhazie, l'Ossétie du Nord, avec les opérations que nous avons connues lorsque Poutine, au moment des Jeux Olympiques de Pékin, est allé faire son opération dite humanitaire. Nous allons aller vers une logique de sécession. Enfin, je veux dire, on va commencer par une logique de sécession avant d'aller vers une partition. Ça va mettre un peu de temps, comme toujours, non reconnu par les uns et par les autres, puis progressivement va s'installer dans le paysage. Le problème, c'est que si on commence à reconnaître, si vous voulez, ces partitions territoriales, c'est pour l'Occident, c'est la fin d'un temps. C'est la fin d'une maîtrise d'ouvrage qui est celle que l'on a installée depuis, notamment depuis un demi-siècle, hein, sur l'ensemble du monde, et où on a finalement dominé l'ensemble du monde au travers de 3 choses. Hein. C'est d'abord, 1, le respect de l'intégrité territoriale, 2, la suffisance militaire et sécuritaire, notamment avec le poids du nucléaire qui dominait toutes les relations internationales, et puis troisièmement, le verrouillage de l'énergie et des monnaies, avec une arme de destruction massive qui s'appelle le dollar, et qui n'a jamais été remise en question par quiconque. Voilà. Donc,
même par l'euro.
Oui, même par l'euro. Et je pense que de cette architecture-là, la dimension qui est la plus fragile, c'est en effet l'intégrité territoriale. Et là, on le voit bien aujourd'hui, cette fractalisation du monde devient de plus en plus nette. Elle s'installe même chez nous, en Europe, quand on regarde ce qui s'est passé avec le référendum écossais. Demain, le 9 novembre, le référendum de Catalogne, mais vous avez le Tyrol, vous avez les Basques, vous avez les Flamands. Moi, je reviens j'étais fait un voyage il y a pas longtemps, là, Belgique, et j'étais entre les Flamands et les Belges. C'est surréaliste. Au cœur de l'une des plus grandes zones de libre-échange du monde. Les deux grandes zones de libre-échange au monde, c'est aujourd'hui l'Europe et l'ASEAN, hein. Voilà. Au cœur de ces zones là, on a des logiques de fractalisation territoriale.
Et cela vient peut-être quand même de ce grand principe du droit international, réaffirmé sans discontinuer par l'ONU, qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Oui, et justement, ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes se confronte avec des logiques identitaires aujourd'hui qui s'affirment contre, la domination des États-nations.
L'identité, c'est le peuple, non ?
Oui, je dirais que ce sont je suis d'accord. Ça, c'est là, on revient au discours de M. Sarkozy il y a 2 jours avant-hier à Lille. mais sur la notion de nation. Mais je pense que ce qui, si vous voulez, aujourd'hui est à l'origine de cette réémergence des identités et des logiques sécessionnistes, et tous ces référendums ou ces batailles, ces guerres civiles qu'on a sur le terrain, c'est la faiblesse des États. C'est la faiblesse des États et la perte de souveraineté de beaucoup de corpus politiques qui ne sont plus capables de tenir le lien État-nation tel qu'il a été défini, notamment derrière derrière la logique du traité de Westphalie.
Je partage entièrement votre analyse et je me suis interrogé sur l'Écosse puisque finalement, j'ai bien vu autour de moi que beaucoup naturellement étaient assez favorables au oui. Oui, mais pourquoi le oui ? C'est-à-dire que, et au fond de moi-même, j'ai bien vu que je n'avais pas de véritables arguments, hormis celui de me dire que face à un État-nation qui est abaissé, qui ne représente plus les intérêts du ou des peuples, ethnies, cultures, identités qui fondent sa spécificité, eh bien, la région devient le succès d'année qui permet de se rattacher à quelque chose et peut-être de reconstruire.
C'est pas de la ligne d'horizon.
Demain quelque chose. Et je pense que c'est l'abaissement en effet de la nation et du sentiment national et cet abaissement du sentiment national qui a été voulu par ceux qui quand même gouvernent ces nations depuis de nombreuses décennies qui permettent pas, qui obligent chacun à se raccrocher à quelque chose de plus petit.
À la question de tout à l'heure de votre auditeur, c'est-à-dire que qui posait la question sécuritaire. Si vous voulez, les vrais attributs d'un État, c'est de lever l'impôt, c'est d'assurer la sécurité, battre monnaie, etc. Bon, c'est évident que par exemple, quand nous on a une tenue sécuritaire pour l'instant qui est quand même importante. Mais sur l'impôt et sur le fonctionnement de l'État, on peut se poser beaucoup de questions.
Oui, enfin, d'accord, sur l'aspect sécuritaire également, parce que jamais dans l'histoire d'un peuple occidental, il y a eu 4 millions de crimes et délits commis par an.
Ah oui, non, c'est d'accord.
Ça bouleverse complètement, je crois, la façon de vivre et de voir de nos contemporains. Ça bouleverse nos économies aussi, ça bouleverse le lien social.
Les problèmes de sécurité.
Mais c'est pareil. D'accord. Ça veut dire qu'une fois de plus, l'État-nation non seulement ne joue pas son rôle, et parfois même favorise des sécessions, qu'elles soient de peuples ou de territoires.
Par exemple, pour la Catalogne et pour l'Écosse. Catalogne, l'Écosse et Tyrol, ou même les Flamands, ils partent du principe que, un, ils ont la ressource. D'abord, quand vous regardez la plupart des sécessionnistes, ce sont des gens qui ont de la ressource. Même le Donbass, le Donbass ukrainien, c'est eux qui ont la richesse. L'Europe n'a récupéré que le centre de coups. Le centre de profil est de l'autre côté du Dniepr. Et Poutine s'est pas trompé. Et il tient ce nœud charbonnier et avec les ports que constituent Odessa et la Crimée, qui sont des ports stratégiques, vers la mer Noire. Donc quand on regarde toutes ces logiques sécessionnistes aujourd'hui, ce sont des territoires qui ont les moyens et qui considèrent qu'aujourd'hui les États gaspillent le fruit de l'impôt.
Pareil en Italie.
Et qu'ils n'assurent pas, en Belgique, en plus de ça, aux citoyens de base ou aux habitants.
Ils ne respectent pas le contrat.
Voilà. Il y a une rupture du contrat.
Rupture du contrat, on va dire du contrat, profane, sur la vie quotidienne. Et il y a aussi une rupture du contrat, j'allais dire, spirituel, dans l'âme nations, c'est-à-dire où on sent bien que ceux qui représentent l'État n'a plus la volonté de continuer cet État pour le compte des peuples, des peuples qui l'habitent. Et donc, il y a une sorte de double trahison. Et donc, on se réfugie.
Ça va même plus loin que ça, parce que dans l'affaire du référendum écossais, ce qui est apparu, c'est Cameron a fait
a bien joué quand même.
Oui, il a bien joué. Il y avait une fenêtre de tir qui était étroite. Il fallait qu'il la joue maintenant, qu'il attende pas trop, parce qu'après, risquer de s'installer, en effet, une logique indépendantiste beaucoup plus forte et affirmée. Et c'est passé de très près, mais bon. Il a compris aussi que le boulet était passé de très près et il a fait un discours à la chambre où il a dit que plus rien ne serait
comme avant.
Avec les Anglais, il faut toujours se méfier, mais il a quand même avoué politiquement,
très bien joué après que ça ait des effets objectifs dans la vie des Anglais, pas uniquement des Écossais, parce que ce dont on parle, c'est pas la question écossaise, c'est la question des peuples unis dans le Royaume-Uni ou du peuple français ou du peuple italien ou du peuple belge, d'avoir des gouvernants qui redonnent un minimum de réalité, à la fois matérielle et spirituelle, je n'ai pas trouvé oui. d'autres termes, à ces États-nations.
C'est là où je
disparaîtront.
Je vois en même temps les difficultés que toutes ces logiques sécessionnistes ou indépendantistes. On va avoir une manifestation à Nantes sur la Bretagne là.
Alors vous êtes breton, Xavier Guillou, ne le cachons pas à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense la même chose que ce que je vais vous évoquer pour l'Écosse, à savoir que vous avez en effet des logiques très fortes sur le terrain. Moi, je les ai vues avec les bonnets rouges que j'ai analysés en long et en large lorsqu'on a eu les événements. Les gens du reste peuvent, enfin, vos auditeurs peuvent très bien aller sur mon site, ils verront, il y a plein d'analyses.
XavierGuillou.com,
voilà.
.com.
Il y a plein d'analyses un peu plus pointues sur tout ce qu'on évoque, sur l'Ukraine, la Syrie, ou les bonnets rouges ou autres. Il y a des mouvements de fond qui sont très importants. On n'arrive pas à 45% de vote n'importe comment. Enfin, je veux dire, c'est pas un effet de circonstance. Ça veut dire qu'il y a un ancrage quand même identitaire très fort au sein de ces régions et avec une aspiration, une demande d'écoute, une demande de...
Et permettez-moi de préciser pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, et ça a été très peu dit là aussi, et là il y a une responsabilité parce qu'on peut être pour ou contre l'indépendance de l'Écosse, oui. mais encore, faut-il donner des éléments, c'est que la vraie question se pose sur la légitimité du nom, puisque ont voté en Écosse tous ceux qui étaient présents en Écosse et non pas les Écossais, oui. et qu'à l'inverse, les Écossais non présents en Écosse n'ont pas voté. Et
on aurait la même chose en France si on avait un référendum sur la Bretagne, hein, je vous signale.
Oui. Et lorsque l'on...
La plupart des Bretons étant à Paris.
Et lorsque l'on regarde sur un certain nombre de villages où on sait qu'il n'y a que des Écossais de souche, on a jusqu'à 70% pour le oui.
oui.
Donc ça pose là aussi une question sur la façon dont on pose la question. Et
c'est là où les États, si vous voulez, ils sont quand même puissants. Et moi, je l'ai vu sur l'affaire écossaise, comme je l'ai vu sur l'affaire des bonnets rouges, à savoir qu'on va instrumentaliser quand même la peur pour notamment toutes les populations qui ne sont pas tellement engagées dans cette logique identitaire, qui flirtent avec, mais qui ne sont pas forcément engagées. Et on va jouer notamment sur les classes moyennes qui vivent de la mondialisation. Vous donnez comme artillerie le monde bancaire, le monde financier. Vous faites jouer Monsieur Barroso par derrière, etc. Enfin, en disant que tout ça va donner une catastrophe.
Ils n'ont rien à perdre.
C'est une
vue de l'esprit. Enfin.
Et du coup, vous créez encore
je
plus.
Je ne comprends pas cette position d'un certain nombre d'élites économiques sur le sujet, si ce n'est une peur frileuse.
C'est la peur de perdre un certain statut, un certain confort. Derrière ces logiques de fractalisation qui feraient que tout leur modèle de pensée n'existerait plus. Voilà. Ou qui seraient obligés de se remettre en cause sur un certain nombre de dimensions.
En tout cas, nous sommes dans un paradoxe incroyable où sur le fond, je ne suis pas tellement favorable à l'indépendance de la Bretagne, de l'Écosse, etc.
C'est ça la différence de
j'aurais voté oui.
Pas de pétrole, donc,
que j'aurais voté oui. Donc on a des gens comme moi qui auraient voté oui. Parce qu'ils veulent que cesse cette mauvaise gestion de l'État-nation et que l'État-nation recouvre ce qu'il est, alors même qu'ils sont absolument pas favorables à cette morcellisation qui me semble quand même, même si c'est fort sympathique, etc., une forme de retour en arrière, que l'on accorde toute l'attention possible à la diversité, à la richesse de nos peuples, de nos cultures, de notre histoire. Oui, mais que chacun reprenne son bout de couverture, hein, son bout de kilt.
Oui.
Je ne vois pas
vous savez, derrière
qu'est-ce qui peut sortir de tout cela.
Toutes ces dimensions État-nation que nous évoquons, vous avez d'abord l'émergence, c'est sûr, de l'identitaire, parfois du populisme le plus extrême qu'on peut avoir.
C'est normal.
Dans un pays,
lorsque le sentiment patriotique n'existe plus,
voilà.
il se transforme en quelque chose d'affadie et de plus petit et de moins noble, qui est un sentiment régionaliste ou un sentiment.
Exactement. C'est ce que l'on a chez les Flamands aujourd'hui ou en Hongrie ou ailleurs. Et puis vous avez à un moment donné le développement de cultures de haine qui se mettent en place. Quand je vois par exemple, entre Flamands et Wallons, sur certaines zones, pas quasiment frontalières, mais des zones de fracture identitaire, C'est inouï, quoi. C'est inouï ce qui se passe. Inouï. Voilà. C'est là, on est dans la haine, si vous voulez, de l'autre. Voilà. Et donc, c'est.
Mais là, il y a une responsabilité
colossale,
écrasante des gouvernants.
Mais quand les gouvernants
sociaux-démocrates,
si voulez...
pour simplifier, de l'ensemble
mais
de
quand
de
les
nos
gouvernants
pays...
s'allient, comme ils l'ont fait par exemple pour l'Écosse, pour faire peur à la population, pour obtenir gain de cause électoralement dans un. Ils font donner l'artillerie, si vous voulez, du monde financier, bancaire, de tous ceux qui sont dans la mondialisation, etc. Ça n'arrange pas les choses. Parce que ça nourrit le champ identitaire, ça nourrit encore plus, si vous voulez, le sécessionnisme. Donc on est dans une espèce de spirale aujourd'hui où la vraie question qui se pose, c'est l'autorité des États, c'est la question de la gestion de la souveraineté, de notre vivre ensemble. Voilà. Je me rappelle très bien quand j'ai sorti mon livre... quelques années, qui s'appelait « Quand la France réagira sur la crise française », j'avais envoyé ça à un certain nombre de politiques, d'hommes d'État, président de la République, premier ministre, etc. Et j'ai un certain nombre de lettres que je garde précieusement dans mes archives. Et il y en a pas un des moindres, des hommes d'État de l'époque, qui me dit « Je suis d'accord avec vous sur l'histoire de la dette, c'est un vrai problème. Je suis d'accord avec vous sur le problème sécuritaire que vous évoquiez, c'est un vrai problème. » On y fait face. Je suis pas d'accord avec vous sur la dilution du lien État-nation. Il me dit c'est pas possible en France compte tenu de notre constitution, nos institutions, etc. Et j'ai répondu, j'ai dit mais justement c'est le problème numéro un parce que la dette c'est un problème technique, la sécurité c'est un problème de posture et de moyens, mais la relation État-nation c'est sacral. C'est au domaine du sacré, au domaine de cet état, de cette maïeutique, de cet état d'esprit.
Puis c'est l'ordre des hiérarchies, ça ne voilà. peut que commander aux questions matérielles.
Exactement.
Ne peut
Or,
que commander.
Aujourd'hui, si vous voulez, par rapport à ces trois questions fondamentales que sont la dette, la sécurité et le problème de l'État-nation, celui-ci soit le plus ébranlé sur le fond. On le voit sur les questions du débat territorial, mais on le voit sur la question de la confiance qu'il y a entre aujourd'hui la population et ceux qui nous dirigent. Même si au sein de ceux qui nous dirigent, il y a des gens qui sont exemplaires et extraordinaires et que les gens, la question n'est plus là.
La question n'est pas là.
On a des grands commis de l'État, on a des grands fonctionnaires qui tiennent à bout de bras le pays, mais la question n'est plus là. Le lien sacral entre l'autorité suprême et le peuple n'est plus là, n'existe plus. Et ce qui est à la base de tous les problèmes que l'on a aujourd'hui. Hein. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de croissance, c'est pas le problème. Le problème, c'est la confiance. Elle n'est pas là.
Et il y a également un dernier sujet, peut-être, c'est celui de quand même l'affrontement économique qui existe, bon, qui ne fait peut-être pas les mêmes dégâts que les affrontements armés. Et j'aimerais vous entendre.
Ils sont liés. Je dirais que les deux ne sont pas déconnectés.
Bien sûr. Mais heureusement pour le moment, les affrontements, enfin en tout cas en Occident, les affrontements économiques ne dégénèrent pas en affrontements armés.
Pour l'instant, oui.
Voilà. J'aimerais entendre votre avis, par exemple, sur des affaires qui ont, je crois, frappé l'opinion, comme par exemple l'affaire de la membre de la BNP. Première question, est-ce que c'était juste, est-ce que c'était légitime?
Non, c'est de la réelle politique. C'est ni juste ni légitime. Je me fie beaucoup, vous savez, du terme de juste, parce qu'aujourd'hui on l'utilise à tout va, notamment pratiquons beaucoup de guerres justes. Et la légitimité, quand on va...
Et après, il y a juste des morts.
Oui, quand on va frapper en Irak sans aucune résolution, ni des uns et des autres, il ne faut pas s'étonner, si vous voulez, si le problème de l'identité, enfin, de l'intégrité territoriale se pose, avec aussi bien le Kurde, l'État islamique, etc., qui revendiquent chacun une nouvelle territorialité. Non, je pense que, si vous voulez, il faut... Ces grands jeux-là, l'histoire de la BNP, c'est... ça fait partie de ces discussions de fond qui ont eu lieu entre la France et les États-Unis au moment des grandes discussions autour du traité de libre-échange. Il faut voir que les Américains aujourd'hui sont en train de mettre en place une révolution géostratégique dans toutes leurs affaires, à la fois économiques, militaires et autres, qui est phénoménale, puisqu'ils basculent de l'Atlantique Nord vers le Pacifique Nord, centre de gravité géostratégique bascule. Et pour verrouiller l'ensemble des jeux internationaux et être à l'heure avec ce face-à-face avec la Chine, ils veulent contraindre deux grandes régions du monde sur lesquelles ils ont, en plus de ça, investi beaucoup, puisqu'ils sont quand même à l'origine de ces deux grandes zones, de la construction de ces deux grandes zones de libre-échange, que sont l'Europe de Jean Monnet, et enfin, l'Union européenne, et puis l'ASEAN, au sud, c'est pas pour rien qu'il y a eu la guerre du Vietnam, etc., et tous les développements qu'on peut connaître. Ce sont les deux plus grosses zones de libre-échange au monde. Ils sont en train d'essayer de négocier deux traités de libre-échange et d'exclure des nouveaux deals qui vont se mettre en place. Le russe, qui aimerait bien, lui, être une des puissances du tour de table du 21e siècle, sur les 30 prochaines années, notamment sur le Pacifique Nord, d'autant qu'il a une façade, que le Canadien, soit pas les BRICS, ça, en général. Voilà.
Et donc, qu'il exclut la Chine? Est-ce que les États-Unis?
Les Américains aimeraient bien être en face à face avec la Chine et avoir derrière des puissances de second ordre. Qui serait non pas marginalisé, mais serait en second rideau. Voilà. Et donc tous ceux qui commencent à se poser des questions vis-à-vis de cette stratégie-là se retrouvent régulièrement avec des dossiers. Donc c'est comme ça qu'il y a eu le dossier de la BNP qui a émergé. Ce contentieux, on le connaît depuis très longtemps. Ça fait depuis 15 ans que j'entends parler de ce contentieux. Top, il est sorti comme ça. Et du coup, Hollande est allé discuter avec Obama, et bien fait comprendre que oui, il signerait, etc. Puis le lendemain,
c'est pas pour ça qu'on n'a pas payé.
Pas pour ça qu'on n'a pas payé, voilà.
Alors,
Là, c'est un peu plus. Là, je rentrerai pas dans le détail. Ce sont des dossiers qui sont en instruction à l'heure actuelle.
Et, d'accord.
Voilà. Mais ce sont des grands affrontements, qui sont des affrontements de l'ordre du géopolitique. Donc, je pense que si vous.
Mais là, les Français ont quand même le sentiment que les gouvernants n'étaient pas forcément à la hauteur de l'enjeu et qu'ils n'ont pas préparé, n'ont pas donné le cadre. Il ne s'agit pas de faire la place du monde économique, bien entendu, mais n'ont pas donné un cadre qui permettait d'avoir justement une stratégie de puissance.
Oui, et il y a eu un abandon de stratégie de puissance depuis un certain temps. C'est ce qui est flagrant. Quand aujourd'hui vous avez un certain nombre d'experts qui parlent beaucoup en termes d'intelligence économique, des problématiques de gestion d'influence et de lobbying et de leadership, De nos pays européens par rapport à la tutelle américaine ou par rapport aux grands jeux qui sont en train de se mettre en place, que ce soit chinois, russe et autres, c'est pas pour rien, c'est parce que nous sommes extrêmement faibles sur cette dimension-là. Nous sommes suiveurs, nous sommes extrêmement faibles.
Et alors justement, est-ce que l'Europe qui devait permettre aux pays européens par son intermédiaire de peser, on sent qu'elle n'a pas cette capacité à créer vraiment de la
L'Europe
norme, vraiment.
C'est une zone de libre-échange, point barre. C'est une zone de libre-échange, c'est pas une zone qui se caractérise par une dimension politique, diplomatique et militaire avec une souveraineté. Quand je vois par exemple ce qui s'est passé sur l'Ukraine, on a beaucoup parlé de la problématique de l'extension du traité d'un accord de libre-échange entre l'Europe et l'Ukraine. Mais la vraie question, c'est l'extension du périmètre de l'OTAN sur l'ensemble de la façade est.
Ça vous semble une bonne chose, cette...
Non. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et je pense que plutôt que d'aller semer le désordre et la pagaille chez les autres, on ferait mieux de remettre bien au carré déjà ce qu'on a du mal à faire fonctionner chez nous.
Alors, Xavier Guillou, deux remarques et questions d'auditeurs de Radio Courtoisie. Une auditrice, je pense que tous ces gens qui veulent prendre leur indépendance veulent en fait reprendre leur identité.
Oui, c'est clair.
Et une question, Monsieur Guillou, quelles sont vos prévisions et le sort de la Roumanie?
j'ai pas joué mon joker, mais je dirais que la Roumanie, comme la Hongrie du reste, comme une partie de la Serbie, etc., sont des pays qui sont extrêmement fragilisés aujourd'hui et qui sont avec des... Alors on parle des logiques identitaires, mais là, c'est le croisement de cette problématique de l'intégrité territoriale, des découpages frontaliers. Si on reprend toute cette zone occidentale de la mer Noire, c'est sur cette zone-là que l'empreinte des... diplomate a été la plus sévère et la plus critique au moment du traité de Versailles. Et quand vous allez à Budapest, vous allez à Belgrade, vous allez à Bucarest, tout le monde vous rappelle que les frontières qui ont été tracées par Monsieur Clemenceau et les membres du traité de Versailles, que les Américains n'ont jamais paraffé, n'ont jamais voulu paraffer. Hein, ce qui leur laisse une marge de manœuvre sur aujourd'hui la vision de ce que doit être les Balkans, ce que doit être le Grand Moyen-Orient, etc., qui est assez décoiffante. Mais cette région du monde sera l'Ukraine de demain. C'est-à-dire que la Moldavie a des revendications sur la Roumanie. La Roumanie veut redevenir la grande Roumanie de l'histoire d'avant 1914. La Hongrie a des revendications sur les territoires de l'Ukraine, mais aussi de l'Autriche, mais aussi de la Serbie, la Voïvodine, etc., etc. Donc, je dirais, les mouvements sécessionnistes que nous avons sur aujourd'hui l'Ukraine, qui peuvent remonter aussi sur la Baltique et sur la Biélorussie, peuvent très très bien à un moment venir frapper à la porte de cette zone-là. Et cette zone-là, qui pourtant est un débouché majeur sur le plan logistique, puisque les ports de la mer Noire sont extrêmement stratégiques, notamment pour les approvisionnements européens, risquent d'être soumis à des secousses non négligeables sur le plan sécuritaire et politique.
Xavier Guillou, nous arrivons au terme de cette émission. Avant de vous remercier, j'aimerais citer quelques ouvrages. D'abord, le livre que vous avez évoqué de Pierre Péan, qui est, je crois, qui n'est
France
pas...
France sous influence.
Une France sous influence, et dont les médias pourraient parler un petit peu plus. Un livre de Marie-Caroline Moulin, que vous avez préfacé, La gestion des crises hors cadre.
Oui, qui est une officier de marine que j'ai coachée pour travailler sur cette dimension.
Dirigé, excusez-moi. Au service secret de la France, par Jean Guinel, David Korn, Broza, où il y a...
L'édition de la Martinière qui vient de sortir, oui.
Une sorte de panorama brossé de la vie de nos services secrets, auquel vous avez également participé, cette fois-ci non pas dans la rédaction du livre, mais dans une vie d'avant.
Oui.
Et aussi rappeler à nos auditeurs votre site internet xavierguillou.com. Alors pour terminer cette émission, je vous propose de laisser la parole à nos auditeurs, puisque un auditeur nous remercie pour cette excellente émission, et une auditrice vous remercie également et indique que vous devriez venir plus souvent, puisque vous lui avez remonté le moral et que grâce à vous elle allait passer une bonne journée. Eh bien, je crois que nous pouvons terminer ainsi, en vous remerciant pour votre éclairage sur les grandes affaires, le grand jeu du temps présent, et peut-être vous dire à bientôt, et pour les auditeurs, à dans 4 semaines.
Merci, bonne journée.